CQFD.
Quand une pathologie de senior frappe les populations plus jeunes, d'après les dernières observations internationales, le cancer colorectal touche de plus en plus les populations jeunes, Sophie Proust.
Les statistiques montrent effectivement une augmentation chez les personnes nées après les années 90 avec deux types de cancers, colorectaux et rectaux. Une équipe du MD Anderson Cancer Center au Texas a relevé entre 1970 et 2010 une augmentation pour les 20-34 ans du taux de ces cancers. Ils sont plus agressifs et avancés. En parallèle, on observe une diminution de l'incidence dans la population plus âgée.
Donc ça veut dire qu'on peut presque parler d'une inversion de tendance. Pour quelle raison ?
Ah, vous connaissez le fameux duo classique sédentarité-alimentation ?
Oui. Hein ?
Eh bien, il y en a un troisième. Les seniors sont appelés plus souvent à se faire dépister, pas les jeunes.
D'accord. Voilà ces premiers éléments qu'on va développer un peu plus tard. Vous parliez d'études au Texas. Ce sont les États-Unis surtout qui sont touchés ?
Non, ce qu'on observe, c'est qu'il s'agit d'un problème des pays occidentaux et qui frappe la population blanche majoritairement. Une analyse a même mis en perspective le lien entre niveau économique et incidence du cancer colorectal.
Ça veut dire que plus on est riche, plus on est à risque.
Oui, dans les pays plus pauvres, on ne mange pas autant et pas autant de viande rouge. En Suisse, plus de 2300 hommes et 1800 femmes sont touchés chaque année par le cancer colorectal. La génération née autour des années 90 présenterait un risque deux fois plus élevé que les générations précédentes de développer un cancer du côlon et quatre fois plus d'avoir un cancer rectal.
Cancer colorectal et cancer rectal, ce ne sont pas les mêmes cancers ?
Non, ce ne sont pas les mêmes cancers et les causes sont différentes. On va détailler ça avec notre invité.
Notre invité, Jean-Louis Frossard, bonjour.
Bonjour.
En duplex de nos studios de Genève, médecin-chef du service de gastro-entérologie aux hôpitaux universitaires de Genève. On observe donc une augmentation de ces cas de cancer du canal anal et du cancer colorectal chez les plus jeunes. Vous nous expliquez déjà la différence entre ces deux cancers ?
Oui, je crois que c'est important de faire cette différence parce qu'on s'adresse à deux types de populations différentes. Et surtout, on s'adresse à deux types de pathologies radicalement différentes. Pour le cancer anal, donc le cancer du canal anal, finalement, qui est la partie terminale du tube digestif, c'est essentiellement l'épidémiologie d'une maladie sexuellement transmissible, qui est le fait d'un virus, papillomavirus, qui infecte, on va dire, près de trois quarts de notre population, et qui, au cours de la vie, ces gens vont développer ou pas des lésions qui peuvent être bénignes, des lésions qui peuvent être malignes, donc le cancer du canal anal. Puis de l'autre côté, on a le cancer colorectal qui touche le gros côlon, le côlon, donc on va dire, jusqu'au rectum et qui est là plutôt lié à la sénescence, à des habitudes de vie comme vous l'avez souligné, la sédentarité, le tabac, l'alcool et probablement aussi une partie génétique au sens très large du terme, c'est-à-dire en fait une hérédité familiale et on sait que lorsque vous avez un ascendant, donc un parent du premier degré qui a eu un cancer, la prévalence va augmenter et donc on doit s'adresser à cette population par un dépistage. C'est ce qui est commencé dans le canton de Genève depuis le 1er juin de cette année.
Le facteur génétique pèse combien dans l'apparition de ce cancer ?
Alors, pour la personne, disons, qui n'a pas de parenté avec un cancer colorectal dans son anamnèse familiale, le risque cumulé à l'âge de 65-70 ans, c'est environ 3-5%. Si vous avez un ascendant du premier degré, votre papa ou votre maman qui a eu un antécédent de cancer colorectal, on va doubler le chiffre, donc une part prépondérante quand même.
Mmh. Le fait que les générations plus âgées se voient proposer un dépistage explique l'inversion de tendance qu'on remarque
oui,
au niveau des générations.
Oui, certainement. Parce que l'incidence du cancer colorectal, donc du côlon jusqu'au rectum, va, dans le fond, débuter à partir de la cinquantaine. Et c'est à ce moment-là qu'on a mis en place une politique de dépistage, qui n'est pas encore le cas au niveau fédéral, mais qui est le cas dans certains cantons suisses, notamment Genève, le canton de Vaud-Oury. Et là, en fait, on va s'adresser à la population asymptomatique pour faire un test de sang occulte dans les selles ou éventuellement une coloscopie. Pour le cancer du canal anal, une population plus jeune, donc maladie plutôt sexuellement transmissible. Il n'y a pas encore de politique de dépistage, mais clairement, il faut aussi dire les choses, c'est le cancer du canal anal représente 3% des cancers digestifs, donc vraiment très peu, peut-être 250 à 300 cas par année, par rapport aux 5000 cas de cancer colorectal dont vous avez fait mention tout à l'heure.
Sophie Proust, l'environnement joue également un rôle, avec notamment une substance suspecte, le triclosan.
Le triclosan, une substance donc chimique qu'on a introduite dans les années 70 et massivement depuis les années 90 dans des produits d'hygiène, entre autres, c'est un antibactérien, un antifongique. Le Centre international de recherche sur le cancer suspecte fortement son rôle dans l'apparition de cancer. Une étude parue dans Science Translational Medicine montre que des souris exposées au triclosan présentent une inflammation du côlon et une prolifération de cellules cancéreuses.
Alors on en trouve dans les produits d'hygiène, c'est-à-dire quoi, les gels douche, les dentifrices
Voilà, et vous pouvait aussi en retrouver dans les vêtements. J'ai demandé à Martin Forter s'il pensait que scientifiquement on pouvait extrapoler à l'humain les conclusions de cette étude sur les souris. Il est directeur de l'Association des médecins en faveur de l'environnement, une association qui a lancé une pétition pour retirer le triclosan justement des articles d'hygiène.
Les études effectuées sur les souris qui montrent une inflammation du côlon et une prolifération des cellules cancérigeuses sont inquiétantes. Ça, c'est clair. Mais on ne peut pas directement faire une liaison avec l'homme. Ce n'est pas possible.
Il y a une pétition des médecins en faveur de l'environnement qui tourne pour éliminer cette substance du marché. J'imagine que c'est parce que vous avez des doutes sur ce produit.
Oui, alors le triclosan, c'est un biocide problématique. On sait ça déjà longtemps. Ces nouvelles études sont seulement une nouvelle pièce pour montrer que cette substance est très très problématique. Le triclosan, par exemple, s'accumule à travers la chaîne alimentaire. La femme avec le lait maternel, elle donne le triclosan inévitablement aux enfants. Et ça, c'est très très problématique parce que cette substance ne devrait pas être dans le lait maternel. Le triclosan est aussi soupçonné d'agir sur le système endocrine, alors comme une hormone, de déclencher le cancer du sein, d'endommager les spermatozoïdes, de provoquer des résistances aux antibiotiques et d'affecter le foie et les muscles. C'est vraiment une substance très très problématique qui devrait être interdite.
Oui, qu'est-ce qui s'est passé depuis cette pétition que les médecins en faveur de l'environnement ont lancée le 27 novembre d'il y a 3-4 ans? Est-ce que ça a eu un impact? Qu'est-ce qui s'est passé depuis?
Le triclosan en Suisse n'était pas très connu, mais je pense que c'est un pas important pour faire connaître un peu plus cette substance problématique. On l'a discuté aussi sur le plan politique, qu'est-ce qu'on fait avec cette substance. Et je pense que c'est une question du temps, ça peut être un an ou cinq ans que cette substance va être interdite dans tous les produits journalières des gens.
Mmh. Les produits cosmétiques, donc d'hygiène, et j'ai vu également sur votre site dans certains vêtements, puisque c'est un antifongique, un antibactérien.
Oui, mais sur les vêtements, c'est très très difficile pour le dire, parce que normalement là, le triclosan n'est pas déclaré.
Martin Forter, directeur de l'Association des médecins en faveur de l'environnement, parle aujourd'hui dans CQFD de l'augmentation des cancers du côlon et du canal anal chez les jeunes. Avec vous, Jean-Louis Frossard, je rappelle que vous êtes médecin-chef du service de gastro-entérologie aux hôpitaux universitaires de Genève. Vous partagez cette inquiétude exprimée à l'instant par Martin Forter à propos du triclosan?
Oui, clairement. Mais disons, je pense que là, on est devant des études associatives. On montre en fait un agent toxique, on regarde en fait s'il y a éventuellement une incidence augmentée de certaines maladies. Ce qui est clair, c'est que l'étude qui vient d'être publiée donc sur les souris est intéressante et éloquente à cet effet. On voit que l'administration de ce triclosan chez les souris induit non seulement une inflammation du côlon, donc une colite, et puis avec le temps, le développement de cellules cancéreuses. Donc on a vraiment l'impression que on attend juste dans l'étude humaine la translation dans le fond des découvertes murines pour aller expliquer ça chez l'homme et retirer cet agent très malheureux.
Mmh. Alors si on revient et si on se concentre un moment sur ce cancer colorectal, donc voilà, qui semble être en augmentation chez les plus jeunes, que faire quand on a moins de 50 ans?
Alors disons, si on parle juste de l'histoire de l'augmentation de l'incidence chez les jeunes du cancer colorectal, un des facteurs qui était mis en évidence dans les études américaines, c'est le fait qu'il y a une sédentarité qui augmente et l'obésité. L'obésité en tant que telle, c'est un facteur cancérigène. Donc clairement, on pense que l'obésité, la sédentarité, le tabac est responsable de l'augmentation du cancer colorectal aux États-Unis. Pour l'instant, en fait, la politique de dépistage, qui s'adresse encore une fois à une population sans symptômes, commence en Suisse et en Europe et aux États-Unis à partir de l'âge de 50 ans. Il est probable qu'à la lumière de ces nouvelles données, on commence finalement le dépistage peut-être à 47 ans ou 45 ans. Mais ça, c'est seulement les études de longue durée qui permettront de répondre à la question.
Quel type de dépistage? Parce que je pense qu'il y a deux oui. systèmes. Il y a peut-être un qui est moins invasif que l'autre.
Voilà. Donc, en fait, il y a une panoplie, dans le fond, d'outils diagnostiques pour le dépistage du cancer colorectal qui va, dans le fond, de donner des selles fraîches à un laboratoire, de rechercher dans les selles fraîches du sang. Normalement, on n'a pas ou très, très peu de sang qu'on appelle caché, occulte dans les selles. Et la découverte de la présence, dans le fond, de sang occulte dans les selles est un témoin d'une inflammation, disons, de l'émission de sang. Ça ne veut pas dire que quand on a du sang occulte dans les selles, on a un cancer. Mais c'est un signal. Et là, quand on a ce test positif, on va faire une coloscopie, qui est le deuxième test qu'on utilise, qui consiste en l'insertion d'un tube semi-flexible dans l'intestin pour aller voir l'intégralité du côlon. Et là, on peut non seulement diagnostiquer, prélever, et si la lésion n'est pas trop importante, finalement l'enlever et diminuer, dans le fond, l'incidence du cancer colorectal avec le temps.
Mais la recherche de sang occulte dans les selles n'est pas fiable à 100% non plus, parce que tous les polypes ne saignent pas.
On est bien d'accord. C'est toute la problématique. C'est qu'on a des polypes qui vont saigner le jour où on fait l'examen. Des fois, ne pas saigner le jour où on fait l'examen. Raison pour laquelle, lorsqu'on fait donc la recherche de sang occulte dans les selles, on le fait toutes les années, voire tous les deux ans. C'est un peu ce qui était décidé dans la politique de dépistage du canton de Genève. Et puis, quand on fait la coloscopie, là, en fait, si l'examen est négatif, le prochain examen aura lieu dans 10 ans.
Quels sont les risques liés à un examen tel qu'une coloscopie?
Oui, alors c'est vrai qu'elle n'est pas, disons, on va dire, complètement innocente. Néanmoins, le risque-bénéfice est extrêmement, je dirais, grand. Le risque principal, c'est des douleurs que le patient peut avoir de l'ordre de 10-15% des cas dans les deux jours, parce qu'on va insuffler de l'air dans le côlon. Et puis, il y a de rares cas, en effet, de perforation, de saignement. Mais c'est vraiment, je dirais, à compter sur le doigt d'une main pour un service comme le mien.
Ce qu'on sait, notamment en ce qui concerne le dépistage du cancer du sein, c'est qu'il provoque malheureusement un grand nombre de faux positifs, c'est-à-dire qu'on a l'impression de trouver chez la femme quelque chose alors qu'il n'y a rien. Est-ce qu'on est dans ce même genre de situation avec une coloscopie?
Alors non, clairement la coloscopie a un pouvoir de détection qui est pratiquement sans limite. Il faut être honnête tout de même, c'est que l'angle de vision du coloscope, c'est pas 360 degrés. Ce qui veut dire que si on se rappelle l'anatomie du côlon qui est fait d'ostration, de plis, on peut ne pas voir en arrière lorsqu'on retire l'endoscope, et c'est à ce moment-là qu'on va regarder la muqueuse, on peut en effet passer à côté de polypes. Alors, ce n'est pas une erreur médicale, c'est les limites de la technique, mais clairement, là, les grands providers de devices médicaux sont en train de nous donner des armes un peu plus, efficaces.
Mais est-ce qu'on est certain que, voilà, si on trouve un polype, admettons que si on l'avait laissé tranquille, peut-être que jamais il ne se serait développé en cancer, non?
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Tous les polypes ne dégénèrent pas en cancer, mais le problème, c'est que quand vous en trouvez un, vous n'avez pas la possibilité diagnostique de dire celui-ci ne va pas dégénérer et je n'enlève pas, celui-ci va dégénérer et je l'enlève. Donc ça, c'est impossible. Du point de vue éthique, on ne pourrait pas le faire pour l'instant.
Et du coup, cette détection précoce permet d'abaisser à combien le risque de mortalité?
Alors, les deux grandes études qui ont été effectuées aux États-Unis dans des grands journaux qu'on appelle New England Journal of Medicine ont montré clairement que la coloscopie donc, permet de diminuer l'incidence du cancer colorectal d'au moins 30 à 40% et de diminuer la mortalité attribuable au cancer du même ordre. Donc clairement, on a des évidences scientifiques tout à fait évidentes.
Là, et pour les jeunes, on a aussi des statistiques aujourd'hui?
Alors, moins, clairement moins, parce qu'on ne comprend pas très bien la raison de l'augmentation du cancer colorectal. Il y a peut-être d'autres facteurs qui ne sont pas encore actuellement connus, mais il est vraisemblable que si on appliquait la coloscopie ou la recherche de sang occulte dans une population plus jeune, 45 ans par exemple, on aurait les mêmes taux d'efficacité, je pense.
Pourquoi vous dites 45? À la limite, on pourrait pousser la réflexion plus loin en disant on les prendre encore plus jeunes.
Alors, c'est un coût, tout ça, évidemment. Ouais. Vous imaginez bien que quand on a un pays riche comme la Suisse, où il n'y a pas encore de politique fédérale de dépistage du cancer colorectal, on a dû, dans le fond, discuter avec les autorités, ça a pris du temps, Genève est partant, le canton de Vaud était partant, mais c'est un coût considérable et il faut que la société l'assume.
On voit parfois des articles sur Facebook, par exemple, 5 signes qui indiquent que vous devez consulter, perte de poids, constipation, fatigue inexpliquée. Est-ce que ces conseils sont pertinents?
Oui, je pense qu'à plus d'un titre, ils sont pertinents, mais néanmoins, il y a une chose qui est importante à considérer, c'est que on parle de dépistage. Le dépistage a pour essence de s'adresser à des populations sans symptômes. Dès que vous avez fatigue, présence de sang dans les selles, constipation qui apparaît ou qui est progressive, là, on s'adresse plus à une population sans symptômes, mais à une population symptomatique, et on n'est plus dans du dépistage, mais dans du diagnostic.
Jean-Louis Fressard, voilà, ça c'est pour le cancer colorectal. Il y a cet autre cancer qui est tout proche, hein, c'est pour ça que vous avez souhaité qu'on les associe dans cette émission, c'est le cancer du canal anal, en lien, vous le disiez tout à l'heure, avec le papillomavirus. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut déjà donner comme, disons, conseil aux gens, se protéger?
Alors, très compliqué, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est une maladie qui s'associe à des maladies sexuellement transmissibles. C'est une maladie qui est liée donc à un virus, il y a plusieurs types de virus, mais en gros, il y a des virus qui sont extrêmement dangereux sur le plan oncogénique, il y a d'autres virus qui sont moins dangereux. On dit que 3/4 de la population suisse a été en contact avec ce virus, une partie seulement, peut-être 10 à 15%, va développer des symptômes en rapport avec cette infection. Ça peut être des verrues génitales, ça peut être en fait des lésions éventuellement du col utérin. Et puis, bien sûr, il y a le cas du cancer du col utérin qui est vraiment un gros problème, 300 cas par année avec beaucoup de décès. Et c'était toute la discussion à l'époque, il y a à peu près 10 ans maintenant, d'introduire la vaccination pour 4 sérotypes particulièrement chez la jeune fille avant toute activité sexuelle. C'est un vaccin qui fonctionne bien. On diminue environ de 60% les cas d'infection, ou disons de cancer plutôt, on va dire, mais ça n'a pas été généralisé à la population masculine, ce qui, au demeurant, pose question. Une épidémiologie complètement différente du cancer colorectal.
Donc ce que vous dites, c'est qu'il faudrait aussi maintenant introduire la vaccination chez les jeunes garçons.
Oui, c'est en vogue, c'est en discussion. Disons, le problème, c'est que, si vous voulez, ça a aussi un coût, de nouveau, et je pense que c'est une question de santé publique, pas à moi de prendre la décision de vacciner tous les garçons, mais a priori, si on considère que cette vaccination est efficace, on pourrait en effet diminuer, je dirais, l'incidence du cancer du col utérin, et bien sûr, le cancer anal, très probablement. On n'a pas de données, authentiques pour vérifier ça, mais je pense qu'on peut extrapoler.
Et toutes les souches ne sont pas représentées dans le vaccin.
Oui, c'est un gros problème.
Donc on se croit protégé, on ne l'est pas.
Oui, vous avez raison. C'était une grosse discussion à l'époque. On se rappelle qu'il y a 300 cas de cancer du col utérin. La vaccination qui était proposée en Suisse, c'est une vaccination quadrivalente, donc il y a 4 sérotypes, et on ne protège pas complètement les gens. Le vaccin n'est pas efficace à 100%, et on a 4 souches.
C'est ça, c'est à peu près face à 75%.
Oui, environ on diminue de 60% le nombre de cancers du col utérin.
Oui. Est-ce qu'il y a moyen en amont d'éviter, d'attraper ce virus? Comment faire pour s'en protéger?
Il y a des populations à risque. Clairement, les populations à risque, c'est les populations qui ont une immunosuppression, par exemple. Chez nous, les greffés. Les greffés sont des gens qui vivent avec des taux d'immunosuppression relativement importants. Et en présence d'un vaccin qui dort un peu, celui-ci peut s'activer. Les populations homosexuelles également sont des populations beaucoup plus enclines, en fait, à avoir ce genre de pathologie. Et les patients VIH positifs.
Et mettre un préservatif, ça...
Oui, certainement, bien sûr.
Ouais. Donc ça nous protège.
Ça devrait contribuer en effet à nous protéger.
Et des visites médicales peut-être régulières?
Oui, mais le problème du cancer canal anal, c'est en fait un tabou, si vous voulez. On en parle relativement peu en consultation. Je pense que le patient a de la peine en fait à en parler. Le généraliste, l'interniste, le gastroentérologue, peut-être qu'il n'est pas forcément au courant. Et le personnage clé de cette pathologie, c'est le proctologue, le responsable de cette pathologie anorectale, qui lui est au courant des lésions prémalignes, des lésions qui sont déjà en train de dégénérer. Et c'est lui qui peut faire une cytologie, comme on le fait par exemple pour le cancer du col utérin.
Cécile?
Oui, sur ce thème tabou, est-ce qu'il y a suffisamment de recherches? Parce que ce qu'on voit, ce qu'on vous entend, c'est qu'il y a des virus, on connaît pas encore bien l'étiologie de cette maladie. Est-ce que finalement c'est difficile de faire des recherches ou demander des fonds pour ce genre de cancer?
Alors, je suis pas un spécialiste, disons, du cancer anal du point de vue, on va dire, fondamental. Je pense que les recherches sont quand même bien avancées. On a fait une avancée spectaculaire avec l'introduction du vaccin en 2007 en Suisse. J'ose espérer qu'il y ait une prise de conscience au niveau national pour éventuellement, en effet, vacciner toute la population masculine et féminine avant leur activité sexuelle, 14 ans par exemple.
Avant leur activité sexuelle, ça veut dire qu'au-delà, une fois que l'activité sexuelle a commencé, c'est plus intéressant.
L'idée, c'est que le vaccin va prévenir le cancer, mais pas le guérir. Donc on a vraiment vacciné les gens avant toute activité sexuelle.
Une fois qu'on a le virus, le vaccin n'est plus utile.
Absolument.
Et dans ce cas-là, alors qu'est-ce qu'on fait?
À ce moment-là, si vous avez une lésion qui est découverte par un examen du toucher rectal, par exemple, ou une anuscopie, on peut envoyer le patient donc à un proctologue. Et en fait, il faut reconnaître que la science a beaucoup évolué parce qu'en termes de traitement, on avait des chirurgies très lourdes auparavant. Actuellement, une radiochimiothérapie suffit à guérir 90% des cancers du canal anal. 10%, 5% des patients vont malheureusement au stade très avancé, finalement, parce qu'il y a un gros déni des patients également qui arrivent avec des lésions très très avancées. À ce moment-là, c'est des chirurgies très lourdes, très invalidantes, handicapantes, des amputations abdominopérinales, vraiment des grosses chirurgies repoussantes, mais qu'on doit parfois faire. Donc, il y a clairement des traitements qui ont évolué ces 10 dernières années.
Donc, une personne de 25-30 ans, aujourd'hui, doit vraiment se préoccuper de ce type de cancer?
Non, très difficile. Alors, ça, c'est une question piège, oui, mais en fait, on ne sait pas comment s'en prémunir. Si ce n'est, les études montrent bien, c'est l'immunosuppresseur, le VIH, le nombre de partenaires. Plus on augmente le nombre de partenaires sexuels, plus on a un risque, dans le fond, d'être contaminé.
Merci beaucoup Jean-Louis Frossard d'avoir été avec nous en duplex et en direct ce matin de Genève, médecin-chef du service de gastro-entérologie aux hôpitaux universitaires de Genève. Donc pour ces deux cancers, une augmentation qu'on remarque chez les plus jeunes. Merci, à bientôt dans CQFD.
À bientôt.
CQFD sur la première.